Chers frères et sœurs, dans cet évangile, on a une espèce de condensé incroyable. Et pour comprendre cet évangile, pour pénétrer cet évangile, on peut utiliser une image, qui est l'image de Jésus au désert, à la fois servi par les anges et en même temps entouré de bêtes sauvages. Donc vous voyez une image à double écran, si vous voulez, avec un double niveau. Au niveau supérieur, Jésus qui est servi par les anges, et un niveau inférieur où Jésus combat les bêtes. C'est deux choses qui sont séparées, vous voyez. C'est l'image de notre âme, de notre être, en fait, de notre personne. Chacun d'entre nous, nous avons quelque chose de bas, quelque chose de matériel et quelque chose de spirituel. Vous savez, c'est deux niveaux, spirituel et matériel. Et ces deux niveaux, ces deux parties de notre être sont très importantes, l'une et l'autre. Il n'y en a pas une qui est supérieure à l'autre. Parce que parfois, on est tenté de faire ça, vous savez. On est tenté de dire que la vie spirituelle est supérieure à la vie matérielle. Voilà. Que l'intelligence est supérieure au corps. Mais ça, c'est pas vrai. Ça, c'est un mensonge. Mais de la même façon, le corps n'est pas supérieur à l'intelligence. Je vous invite à lire un tout petit livre de philosophie. Alors, je vous rassure, pour ceux qui ont de la peine avec les études, c'est facile à lire. C'est Guillaume Martin qui a écrit ce livre. Guillaume Martin, je ne sais pas si vous le connaissez, il fait du vélo pour l'équipe Cofidis sur le Tour de France. Oui, c'est un champion, si vous voulez. Seulement, ce champion, il a bac plus 70 au moins. C'est un docteur en philosophie. Vous avez un docteur en philosophie qui fait du vélo sur un... Et lui, il a écrit un petit livre pour expliquer l'intelligence du corps. Comment est-ce que dans notre corps, il y avait une vraie intelligence? Et que le sportif qui pédale sur son vélo, vu de loin, on pourrait dire finalement, ça n'a pas l'air d'être... Mais c'est comme Coluche qui disait que sur une équipe, il y a un esprit. Mais non, les sportifs, c'est plus subtil que ça, c'est plus intelligent que ça. Lisez ce petit livre de Guillaume Martin, qui vous amusera en plus si vous aimez faire du vélo. Toujours est-il que notre combat, ça va être d'unifier la vie spirituelle et la vie matérielle, et la vie physique. Je pense que tous autant qu'on est, on a besoin de vivre cette unité. Parce que parfois nos idées sont bonnes. Très souvent, nos idées sont bonnes, bien sûr. Quand on juge les gens, quand on juge les situations, quand on juge les idées, quand on essaie de mieux connaître les choses, etc. Oui, souvent nos idées sont bonnes. Ben, on peut aussi se tromper de façon mouse costaud. Et des idées qu'on peut croire bonnes peuvent nous emmener en enfer. Elles peuvent même emmener les autres en enfer. Ça, c'est toute l'histoire de la dictature. Lisez, il y a des bouquins en ce moment. Christine O'Krent a écrit un bouquin sur les dictateurs, qui c'est extraordinaire. Ça. Elle démontre le système. Voilà. La banalité du mal de Arendt montre aussi comment est-ce qu'on peut entrer simplement par des idées dans une espèce de génocide terrible. Donc notre esprit peut être sanctifié, mais il peut être aussi nous entraîner au mal. Et notre corps peut être tout à fait sanctifié, mais nous entraîner au mal, dans un excès comme dans l'autre. Si vous ne vous occupez pas assez de votre corps pendant ce carême, eh bien il faudra s'en confesser. Mais si vous vous en occupez pas trop, si vous en occupez trop, pardon, il faudra aussi s'en confesser. Alors en hiver, en général, on s'en occupe plutôt moins que plus. Quoique, ce que le Seigneur nous dit dans cet évangile simplement, c'est que nous sommes à cause du péché originel et à cause de notre péché désunis. Et nous avons besoin d'une unité, corps et esprit. Nous avons absolument besoin de cette unité. Et le Seigneur nous dit, je viens pendant ce carême faire l'unité en toi. Comment ? Par notre baptême. Et c'est pour ça que les catéchumènes sont là, pour nous montrer l'exemple finalement. Parce que qu'est-ce qui se passe ? Au moment du baptême, nous recevons la présence de Dieu. Nous avons la Trinité en nous. Et en plus de la Trinité en nous, nous avons des vertus, des forces qui nous sont données à ce moment-là. La foi, l'espérance et la charité. C'est ce qui agissent dans notre être. Et comme dit l'Écriture, que nous veillons ou que nous dormions, le Seigneur, la Trinité qui est dans notre corps, nous influence, exerce une pression, si vous voulez, exerce une intelligence, exerce une sur précisément notre intelligence, notre volonté, notre mémoire. Ce qui transforme notre être. Alors vous imaginez, bien sûr, si nous avons conscience de cette présence en nous et si nous posons sans cesse des actes de foi, de charité et d'espérance, si nous permettons à Dieu qui est à l'intérieur de nous d'agir sur nous, et bien sûr, il agira sur nous et sur toute notre personne en faisant l'unité. Et une unité qui peut aller très très loin dans la gloire de Dieu. Je me souviens avoir fait un jour une expérience qui m'a vraiment profondément bouleversé. Ça se passe à Calcutta, ça se passe avec Mère Teresa. On était dans la chapelle, il est 5h30 du matin. C'est pas très tôt, hein. Tout le monde se réveille à cette heure-là en Inde. On était assis l'un à côté de l'autre parce que ce jour-là, j'étais là et puis qu'elle est venue s'asseoir. Et j'ai eu un sentiment étonnant, mais vraiment très étonnant. Au moment où je l'ai vu passer devant moi, je me suis dit, mais on dirait un bout de torchon, on dirait un bout de chiffon qui vient et puis qui se pose, qui tombe contre le mur. Ça, c'était ma première idée. Et la deuxième idée, je me suis dit, mais c'est inouï ce qui peut émaner de ce corps. C'est inouï comme il y a quelque chose d'achevé dans son corps. Alors elle était à moins d'un mètre, elle était dans une espèce de sari blanc et bleu, là, vous savez, mondialement connue, on ne la voyait pas, on ne la voyait plus. Encore plus petite que Sœur Marie-Joël, vous voyez le truc. Mettez Sœur Marie-Joël, vous la repeignez en bleu et blanc, mais encore plus petite. Je ne pensais pas que c'était possible d'être aussi petit. Du coup, quand elle était assise, là, Sœur Marie-Joël, vous la voyez, mais Mère Teresa, vous ne la voyez plus, parce qu'elle est dans son linge, vous voyez, dans le linge. Et pourtant, de ça, sortait une gloire. Alors, je me suis dit, mais mon pauvre vieux, décidément, faut arrêter le whisky, hein, parce que... Et ce que j'ai fait, c'est qu'en me relevant, j'ai été voir les camarades qui étaient à côté, j'aurais dit, écoutez, je viens de vivre une expérience étonnante, mais je voudrais savoir si c'est vrai. Alors, demain, c'est toi, Nathalie, qui va aller t'asseoir à côté de Mère Teresa. Moi, c'était l'époque où je commandais un petit peu, comme ça. Lendemain, la petite mère Nathalie, elle va s'asseoir à côté de Mère Teresa, et moi, je guette le truc de loin. Et je vois Nathalie, mais complètement, devenir complètement bizarre. À la sortie, j'ai dit, non, mais qu'est-ce qui t'est arrivé ? Elle m'a dit, c'est incroyable la gloire qui émane de ce corps. Alors, j'ai utilisé les suivants. Tous les copains, ils sont passés, parce qu'on était venus à une dizaine. Tout ça pour vous dire une chose, chers frères et sœurs, c'est que quand le Seigneur agit et qu'on le laisse agir dans notre être, il touche notre corps. Vous voyez ? Il touche notre corps. Alors peut-être que certains d'entre vous ont du mal avec ce corps, à cause de la maladie peut-être, à cause des pulsions, à cause des forces, vous voyez ? À cause des choses que vous ne voudriez pas voir de votre corps, à cause des choses que vous ne maîtrisez pas dans votre corps, le jour ou la nuit, vous voyez ce que je veux dire ? Avec certaines personnes ou avec d'autres personnes, il y a des fois, on ne maîtrise pas tellement. Mais des fois, il y a des gens, j'ai envie de leur sauter dessus. Puis il y a des fois, il y a des gens, on a envie de se mettre à genoux pour tellement... Bref, vous m'avez compris. Ça, c'est la réalité spirituelle devant laquelle le Seigneur veut nous mettre aujourd'hui. En nous disant, l'unité, elle est déjà faite. Il faut juste que tu y participes. Alors, comment on fait pour participer à cette unité? On a une deuxième image qui est très très belle, je trouve, mais mal comprise, souvent. Dans la première lecture, Noé, oui, l'histoire de l'arche, etc., les animaux, tiens, les animaux, la vie matérielle, 8 hommes et femmes, j'imagine, l'humanité, enfin, le spirituel et ce qui représente le plus matériel réuni dans une même arche, tiens, encore l'unité. Comment Dieu nous donne le moyen de déployer cette unité en nous? Il le montre à travers une image, mais en fait qu'on peut comprendre, enfin en tous les cas j'ai trouvé cette idée-là, que dans les targoums juifs. C'est l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel. Vous avez tous vu un arc-en-ciel, on a tous vu un arc-en-ciel. Voilà. Et on se dit, l'arc-en-ciel, c'est le signe de l'alliance, ça, tout le monde sait ça. Et nous, bons petits Européens occidentaux, on a l'image de deux alliances qui se croisent comme ça, dès qu'on pense à l'alliance. Alors on se dit, voilà, c'est le rond qui représente une bague, qui représente une alliance, qui fait l'alliance avec l'humanité. Et on s'imagine que la Terre, c'est un petit peu comme un rond aussi, qui fait alliance avec Dieu. C'est so charming, sauf que ce n'est pas la réalité. L'arc-en-ciel, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il n'est pas complet. On ne voit jamais un rond. C'est un arc. Et pour les Juifs, l'arc-en-ciel, ce n'est pas un arc qui représente une partie d'une alliance. C'est un arc de chasse. Un arc de chasse pour tirer des flèches, vous voyez? Et l'idée des Juifs, c'est que Dieu a mis à notre disposition un moyen pour envoyer des flèches vers lui, pour le toucher. Et en faisant ça, en touchant Dieu grâce à cet arc, si vous voulez, eh bien, l'unité s'opère en nous, dans notre corps, mais aussi dans notre groupe, dans notre communauté. Alors, comment on fait pour envoyer les flèches? C'est quoi envoyer une flèche? Eh bien, les Juifs le disent, envoyer une flèche, c'est dire « je crois ». Envoyer une flèche, c'est dire « je t'aime ». Et envoyer une flèche, ça veut dire « j'espère ». À chaque fois qu'on pose un acte d'espérance, de foi et de charité, c'est comme si on envoyait une flèche avec l'arc-en-ciel dans le cœur de Dieu. Et l'unité en nous se construit. Vous voyez, ce n'est pas nous qui construisons notre unité par des subterfuges psychologiques, par des subterfuges même spirituels. Tant que je suis à la manœuvre, ça n'est que moi qui suis à la manœuvre et ça ne va pas aller très loin. Mais si c'est Dieu qui est à la manœuvre, l'unité s'opère en moi. Vous voyez, c'est ça la grandeur de notre baptême. Dieu est vraiment... Moi, je suis émerveillé de cette invention du baptême. Parce qu'on ne pouvait pas s'en sortir avant, tant que Dieu était à l'extérieur de nous. Mais maintenant qu'il est à l'intérieur de nous, on peut sans cesse envoyer ses flèches en lui pour qu'il augmente en nous l'unité. Mais vraiment, chers frères et sœurs, cette victoire que nous cherchons tous et que nous voulons tous, cette victoire de l'unité qui écarte notre cœur, le péché, c'est Dieu qui l'opère en chacun d'entre nous. Alors, dernier détail, quelle est la corde, ou plutôt, quel est le moyen très concret, que représenterait la corde de l'arc? La corde de l'arc, c'est la tentation. C'est-à-dire qu'à chaque fois que nous sommes tentés, nous avons tendance à voir la tentation comme un danger. Et on se dit, oulala, voilà une tentation, voilà une tentation, agissons contre. Ou alors n'agissons pas du tout, cédons à la tentation, comme ça il n'y aura plus de tentation. Il y a des gens qui font ça aussi. En fait, la tentation, elle est comme la corde de l'arc. C'est-à-dire que à chaque fois qu'une tentation arrive, j'ai en moi le moyen de la traverser et d'envoyer une flèche dans le cœur de Dieu. Ainsi, dès que j'ai une tentation contre la pauvreté, contre la chasteté, contre la pureté, dès que je n'arrive plus à maîtriser ma langue, à maîtriser mon cœur, à maîtriser mon corps, j'envoie une flèche de foi. Vous voyez ? J'envoie une flèche d'espérance, une flèche de charité. Et la corde, c'est la tentation. C'est pour ça que Dieu la maintient, la tentation. C'est pour ça que nous sommes tentés. C'est pour que nous soyons victorieux et que nous soyons unis. Demandons au Seigneur, si vous le voulez bien, et à la Sainte Vierge, sa mère, de nous aider surtout à ne jamais nous décourager devant la tentation, ne jamais nous décourager devant la désunion de notre personne. Amen.